L'émission Écho de la solidarité internationale, présentée par la Maison des Tiers-Mondes et de la solidarité internationale.
Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est Marie-Claude qui vous accueille sur ces ondes. Voilà, et je vais vous transporter sur le continent américain, mais dans le sud. Voilà, et je suis en compagnie donc de Florent Marot, qui représente le comité Nicaragua-Occitanie, donc qui est membre de la Maison des Tiers-Mondes. Voilà, donc Florent Marot, bonjour.
Bonjour Marie-Claude.
Voilà, je vous sais un expert, super expert donc de la cause nicaraguayenne, et je vais vous demander si vous êtes d'accord dans un premier temps de nous rappeler un petit peu ou de nous conter, parce qu'on ne connaît pas tout, hein, l'histoire de ce pays, le Nicaragua. Voilà, merci de le faire.
Et merci à Marie-Claude, à Radio FM+, de nous accueillir et de nous donner l'occasion de parler de ce pays que nous aimons tant et pour lequel nous souhaitons un avenir meilleur que le présent qu'il vit actuellement.
D'accord, on est d'accord avec ça.
Alors quelques mots donc sur le Nicaragua, qui est un petit pays d'Amérique centrale. L'Amérique centrale, pour rappeler, c'est coincé entre le Mexique et l'Amérique du Sud. Donc du nord au sud, le Guatemala, le Honduras, le Salvador, le Nicaragua, le Costa Rica et le Panama. Donc Nicaragua est juste au milieu, avec une côte côté Caraïbes et une côte côté Pacifique. 5-6 millions d'habitants, un tiers de la superficie de la France à peu près. La moitié du pays très peu peuplé parce qu'il pleut tout le temps et que les sols sont de mauvaise qualité et il n'y a pas de voie de communication. Et l'autre, le gros de la vie économique, politique, sociale, se développe sur la côte pacifique. On y parle essentiellement l'espagnol, mais aussi l'anglais sur la côte atlantique.
D'accord.
Alors ce pays donc, a été colonisé comme toute l'Amérique latine par les Espagnols au 15e siècle, et a été décolonisé, comme tous les pays, au 19e siècle. Donc 1821, c'est l'indépendance. C'est, au début de l'indépendance, une tentative de fédération des pays d'Amérique centrale qui se sont dit, mais pourquoi nous, la couronne espagnole nous avait divisés en petites capitaineries, couronnes, mais nous, on ne veut pas de ça, on est tous frères et tout. Donc il y a une tentative de fédération, mais qui n'a pas marché. Et puis finalement, chacun est revenu aux frontières qu'avait laissé l'Espagne. Donc un 19e siècle un peu chaotique, un apprentissage douloureux de la démocratie, les libéraux et les conservateurs, ça ressemble un peu à Alcazar Tapioca pour ceux qui connaissent Tintin, mais c'est plus tragique que ça. Et ça nous amène donc, à mesure que l'intérêt des Américains croît pour construire un canal interocéanique, à une mainmise croissante donc, des États-Unis sur ce pays qu'ils gouvernent par procuration, on va dire, que les présidents soient libéraux ou conservateurs donc, pendant cette période. Tout ça nous amène donc à 1930, il y a un grand leader paysan qui s'appelle Sandino, qui en appelle à la souveraineté, qui en appelle à l'identité et qui dit « il faut chasser l'envahisseur Yankee ». Pendant 6 ans, donc, Sandino va mener de 1927 à 1933 une guérilla, une véritable guérilla paysanne contre la présence, la domination américaine donc, sur le pays. Et on a dit que c'était le premier Vietnam. Bref, en 1933, Sandino prend le pouvoir et chasse les occupants. Les chasse, pas vraiment, puisque donc, les Américains ne sont jamais très loin quand ils s'en vont dans des conditions comme ça. Sandino se fait assassiner dans des conditions sournoises. Les Américains installent Somoza, qui est leur homme, un bonhomme de l'armée, sinistre, et qui va régner, on va dire, lui d'abord, son fils, son deuxième fils, de 1934 jusqu'à la révolution de 1979. Alors cette révolution, parlons-en un peu, puisque donc elle a pris le nom de révolution sandiniste dès les années 60, en mémoire du grand héros Sandino, donc, dont j'ai relaté brièvement la mémoire, les exploits, parce qu'il s'agit vraiment d'exploits. Et le Front sandiniste, donc, a reconstruit sur des bases un peu modernes. Il y avait eu le Vietnam avant, il y avait eu Cuba, il y avait eu etc. Donc, et, je la fais courte, a pris le pouvoir en 79, à la tête, donc, et a réussi une très large mobilisation pour une révolution, donc en chassant le dictateur Somoza, héréditaire, en le chassant avec un vrai consensus populaire allant paysans, ouvriers, une grande partie de la bourgeoisie qui en avait marre de Somoza aussi, et donc ils se sont constitués. Alors, ça a été la révolution exemplaire qui a fait l'admiration dans le monde entier. Elle a pris ses distances avec Cuba. Elle développait un modèle autonome. Elle a eu une direction nationale qui a de 9 membres au début. 10 ans après, il y avait toujours les 9 mêmes membres. Il n'y a pas eu de purge, il n'y a pas eu d'exécution sommaire. Bien sûr, il y a eu quelques bavures. Mais disons, ça a été quelque chose d'assez exceptionnel. Et moi, votre serviteur, j'ai eu l'occasion d'y participer. Ça reste comme quelque chose de très fort dans ma vie. Mais comme, les choses s'érodent, les Américains ne sont jamais très loin. Et donc, on fait ce qu'il fallait pour torpiller cette révolution. Les gens réfléchissent encore et on n'a pas pourquoi est-ce que finalement, 10 ans plus tard, lors d'élections, les sandinistes, à la loyale, ils ont perdu. C'est une réalité. Ils ont rendu les armes, ils ont rendu le pouvoir, et donc ils ont laissé s'établir donc un gouvernement alternatif. La droite est revenue au pouvoir avec ses caractéristiques sociales, économiques, ses marches arrière sur la réforme agraire et les distributions de terres qu'il y avait pu y avoir. Donc en apportant à la fois la paix sociale, puisque donc du coup il n'y avait plus de guerre donc du fait de la situation, donc là en gros la contrat qui avait miné la révolution sandiniste n'avait plus de raison d'être. À la fois donc le nouveau gouvernement s'est attiré les faveurs des investisseurs internationaux, etc. Donc qui font que le Nicaragua a redémarré donc cette à partir de 89, donc des élections perdues par les sandinistes. Il s'en est suivi une période assez chaotique où les sandinistes étaient tapis dans l'ombre. Ils gardaient quand même une partie du pouvoir, notamment militaire, notamment dans la police. Donc, on pourrait s'étaler longuement sur cette période, mais c'est trouble, je crois qu'on ne sait encore pas tout. Il y a eu des alternances du gouvernement plus ou moins corrompu, il y a eu des pactes entre les sandinistes qui faisaient et qui défaisaient les rois d'un côté, mais qui s'est retrouvé aussi. Bref, en 2007, ils reviennent au pouvoir. Alors, gouvernement minoritaire au début, puis qui petit à petit donc reconquiert l'appareil d'État, reconquiert les secteurs perdus, installe un pouvoir fort, l'information, etc. Et donc tout les caractéristiques d'un pouvoir fort, pour pas dire une dictature, donc s'établissent à ce moment-là. Et le climat devient vraiment, vraiment, vraiment oppressant. Donc là, il y a des étincelles. Je ne vais pas rentrer dans les détails. C'est la réserve, donc une réserve donc avec victime d'un énorme incendie, donc pas du tout contrôlé par le pouvoir d'État, et qui a exaspéré toute une partie de la jeunesse qui voyait un peu ces réserves naturelles de biosphère donc partir en fumée, c'est le cas de le dire. Et puis les retraites. Un décret, donc, parce que le Nicaragua, en même temps, se voulait être le bon élève du FMI, donc appliquer ce qu'il fallait pour réduire la dépense publique, etc., et donc à toucher aux retraites. Bref, il y a eu des émeutes. Et face à ces émeutes, donc, le pouvoir d'Ortega, donc les sandinistes, ont tiré dans le tas. Et il y a eu 300 morts.
Oui.
700 blessés, etc. Donc, et là, c'est avril 2018, c'est vraiment une nouvelle phase dans la répression, l'accentuation de la dictature, un contrôle absolu et général sur les forces politiques, les économiques, la corruption, la presse, etc. Et donc une ambiance qui était assez lourde, qui est devenue irrespirable, avec de la violence, de la violence, de la violence. Donc ça, c'est avril 2018, et à partir d'avril 2018, donc le combat, pas qui s'est jamais arrêté, mais là, ça devient un vrai combat contre une force, la force de la dictature qui tenait tout ça, qui naît. Donc, clandestinité de l'opposition ou des élections organisées en 2021 qui sont en fait révélées complètement bidon. Mmh. Chaque candidat qui se présentait était systématiquement mis en prison, écarté pour des motifs fallacieux, au vu et au su de tout le monde.
Tout le monde, oui, c'est ça.
Avec la réprobation internationale, mais rien à faire. Ils étaient là, il était hors de question donc que s'établisse une alternance, ce qui a provoqué une sidération générale, en plus de la douleur des martyrs, de la répression, etc. Donc il y a une sidération générale en disant mais on nous vole tout, on nous vole nos libertés, on nous vole nos perspectives, on nous vole l'idée que les libertés publiques puissent être un jour... c'est la situation, j'allais dire, atroce dans laquelle on est actuellement. Depuis 2018, nous sommes dans cette situation-là, avec aucune perspective par la voie démocratique que la situation puisse évoluer vers quelque chose de...
Oui, puisque de toute façon, vous dites vous-même, les élections sont manipulées, enfin rien n'est...
Ah, mais c'était plus que manipulé, c'est-à-dire dès qu'il y avait un opposant un peu crédible, alors c'est déjà pas facile de construire une opposition, parce qu'il y a une opposition de gauche, Ortega. Il y a une opposition classique, libérale, etc. Puis il y a une opposition qui sont aussi les revanchards de l'époque Somoza. Ouais. Donc tout ça, mettre tous ces gens d'accord, c'est pas facile. Donc même dans une vie politique normale, avec des échanges, avec des débats, etc., ça serait bien. Mais là, c'était une vraie caricature, parce que dès qu'une tête émergeait qui était susceptible de faire un peu consensus, au moins sur un secteur de l'opposition, en prison, en exil, on inventait n'importe quel prétexte. C'était notamment le cas pour deux des fils de... Enfin, un fils et une fille de Pedro Joaquim Chamorro, qui avait été un des grands opposants à Somoza dans les années 50, 60. Mais après, les autres, ils sont tous plus ou moins passés à la casserole. Donc, c'est des gens qui maintenant sont en exil, c'est des gens qui ont Alors, je ne sais pas si on peut parler de la situation présente ou si on en parle.
Je pense que ce serait bien. De toute façon, bon, pour présenter l'événement dont on doit parler, ce sera relativement rapide.
D'accord.
Et voilà, ce serait bien peut-être de parler de la situation, parce que vu l'intensité de vos propos, je pense que c'est important.
Voilà, donc la situation, la situation actuelle, c'est... Alors, il faut peut-être parler un petit peu du contexte international, parce que, comme je le disais, donc... Ortega faisait ça donc au vu au sud de tout le monde. Alors l'opinion internationale disait mais ouais c'est Ortega, le triangle infernal Ortega, enfin Nicaragua, Venezuela, Cuba, etc. Donc ça nous surprend pas. C'est une gauche entre guillemets qui ne pratique d'aucune manière la démocratie. Mais il y a eu quand même des événements qui ont un peu changé la donne en Amérique latine. Il y a eu d'abord l'arrivée de la gauche au Chili, avec Boric. Il y a eu l'arrivée de la gauche complètement inattendue en Colombie, avec Petro. Et il y a eu le retour de Lula. Alors ça a changé un petit peu au niveau international, donc, et notamment que... Alors Lula, lui, donc, n'a encore trop rien dit, mais c'est plus récent. Mais par contre, Petro et Boric ont fait les gros yeux à Ortega. Et l'on dit, c'est pas comme ça, le socialisme, tu dois laisser ton opposition s'exprimer, tu dois, etc. Et donc, chaque fois qu'une occasion était donnée, donc, ces deux personnages ou leurs services, hein, c'est-à-dire, c'est pas que des... Que des tribuns, c'est les ministères des Affaires étrangères, dans les forums internationaux, etc. Les consignes étaient données aux Colombiens et aux Chiliens, donc de dire Ortega, ça va pas, le Nicaragua, ça va pas, vous avez volé les élections, vous n'avez pas d'opposition démocratique. Alors, face à ça, donc, Ortega s'en est tiré avec une pirouette cynique, c'est-à-dire qu'il a libéré effectivement les prisonniers, avec notamment. Dora Maria Tellez, qui était une des leaders historiques de la Révolution, qui était numéro 2 dans la prise du Palais National, qui a permis de libérer énormément de monde, donc, et qui a un peu mis le feu aux poudres en 1978 à la Révolution, qui a été ministre de la Santé, etc., qui est un personnage absolument admirable, qui a été fait docteur honoris causa par la Sorbonne l'an dernier, qui croupissait en prison, donc avec 250 opposants, donc depuis quelques années, pour simple délit d'opinion. Elle avait fondé avec Sergio Ramirez le mouvement mouvement révolutionnaire sandiniste ou un truc comme ça, enfin, qui se réclamait du sandinisme canal original et qui critiquait partout donc le dévoiement qu'en avait fait Ortega. Donc face à cette pression internationale, Ortega a dit bon, ok, je libère tous ces gens là. Et il a mis tout le monde dans l'avion, tout le monde aux États-Unis. Après, il les a déchus de la nationalité nicaragouienne. Il a, comme il sait faire, mobilisé les turbas, c'est-à-dire les hordes donc de gens qui, dans les quartiers, dans les administrations, etc., sont aux ordres donc pour des autodafés, pour faire ce qu'on veut, tout, et donc pour qu'il y ait une bronca nationale contre ces antisociaux, contre ces non-patriotes, contre ces, etc. Donc ça, c'est d'il y a quelques mois, et donc nous avons tout de même la chance et le bonheur de voir que tous ces gens, notamment Dora Maria, qui est pour beaucoup une héroïne, au moins elle est sortie de prison, et elle ne va pas mourir, de même que 222 personnes, donc... Et là, c'est donc nous en sommes donc dans la situation actuelle, on en est là avec donc un gouvernement très isolé, Ortega très isolé à l'international, notamment avec les grands frères Boric et Petro qui font les gros yeux. Avec un jeu international qui, malheureusement, actuellement, est tellement compliqué avec l'Ukraine, avec tout ça, les prises de position des uns et des autres, et une espèce de dialectique un peu simpliste, si t'es de gauche, tu es contre l'impérialisme, si t'es contre l'impérialisme, t'es contre les Américains, si t'es contre les Américains, t'es pour les Russes. Donc, des dialectiques de ce type-là font que le jeu géopolitique est complètement... Et sa déclinaison dans les pays est extrêmement compliquée à lire, quoi. Donc, voilà. Non. Voilà en gros où en est la situation. Ça reste tragique. Ça reste sans aucune issue visible. On voit vraiment pas. Et on espère, puisque peut-être qu'on va en parler de l'événement, puisqu'on a quelqu'un
on va parler de ça.
Des gens qui viennent nous parler de ça, qui peut-être nous attendons d'eux, qu'ils nous donnent
d'avoir
un peu d'espoir
un petit
et
peu
des perspectives.
Plus clair et peut-être avec un peu plus de lumière. Donc merci pour cette première partie avec cette histoire qui est toujours, cette histoire du Nicaragua qui est toujours d'une grande richesse, et en plus évoquée par Florent, mon invité. Et donc là, on va passer une petite pause musicale pour souffler un petit peu avant de revenir sur Montpellier avec tout ce que le comité dont va nous parler Florent a organisé en partenariat avec l'international. À tout à l'heure, bonne pause. Le titre c'est
Alforja Campesina Proletaria. Une chanson de Carlos Mejía.
Voilà, paysanne prolétaire.
Qui a accompagné la révolution et actuellement la critique du sandinisme. Par une musique extraordinairement populaire et simple comme celle que nous allons écouter.
Voilà, bonne écoute et à tout de suite.
Campesina pinolera, sos el mero escapulario de mi tierra. Cuando vienes del pueblo bien cargada, me pareces a una indita embarazada. Alforja campesina proletaria, olorosa trigo nuevo ya quebrada. Yo te quiero por ser hija de mi brazo, hermanita menor del calabazo. Dicen que en el Chilamate Juan Carmenate murió, los cocoyos siempre cantan donde el campisto cayó. Ya viene la fiesta de agosto, ya los chinamos están en pie. En la baja el gallo giro que a don Casimiro le merque.
¡500 pesos al gallo giro! ¡Hoy mil arrojo!
Campesina pinolera, sos el mero escapulario de mi tierra. Cuando vienes del pueblo bien cargada, me pareces a una indita embarazada. Alforja campesina proletaria, olorosa trigo nuevo ya quebrada. Yo te quiero por ser hija de mi brazo, hermanita menor del calabazo. Novia linda es este broche, un regalo para vos, una flor de sacanjoche que corte en la cuesta del coyol. Yo te ofrezco en esta ronda mi inflamado corazón, que es una alforja redonda cargadita de ilusión. Alforja campesina pinolera.
Bon, voilà, nous sommes restés avec les campesinas du Nicaragua, avec la musique entraînante que vous avez entendue. Et donc, je retrouve mon invité, Florent Marot. Et donc, je lui demande, dans une première instance, Florent, vous pouvez nous parler donc de ce comité Nicaragua-Occitanie, voilà, qui est membre de la Maison des Tiers-Mondes, de la Solidarité Internationale. Vous pouvez nous parler de la création et puis de tout ce que ça comporte par la suite.
Oui, à nouveau, merci Marie-Claude de nous donner l'occasion de parler. Alors, donc, si vous... Je me réfère à la première partie de l'émission. Donc, on y fait une rétrospective de l'histoire et j'ai parlé de l'événement clé donc, des dernières années, qui est les grands massacres d'avril 2018.
2018, oui.
Alors, avril 2018, donc, moi-même et un certain nombre d'amis... et un certain nombre d'étudiants nicaraguayens, de professionnels, donc que nous avions, avec qui on était en relation, donc nous avons été absolument horrifiés de ce qui s'est passé. Je dirais de la même manière que en 78-79, puisque Marie-Claude l'a pas dit, j'ai l'air d'un jeune homme comme ça, mais en fait.
Moi, j'ai rien à dire.
J'ai un petit peu de cheveux blancs sur le caillou. Donc, mais déjà en 78, 79 et déjà au moment de la Révolution, je dirais les mêmes, nous nous étions mobilisés soit pour la chute de Somoza, soit pour la construction de la Révolution. Donc, nous sommes dit, on ne peut pas rester les bras ballants, donc à regarder évoluer cette tragédie. Et de la même manière que le comité parisien, que à Barcelone, que à Bilbao, que en Allemagne, que partout où il y a une présence, une diaspora, soit nicaraguayenne, soit des anciens, donc dans mon genre, je dirais, donc qui étions ébahis de cette situation, on s'est constitué en comité. Donc le temps de faire les papiers, de se regrouper, de dire un peu, faire une charte, dire en fait qu'est-ce qu'on veut, de se nous positionner politiquement, de dire ce qu'on était, de dire aussi ce qu'on n'était pas, de lire un peu. Donc le comité, c'est tout ça, c'est pas simplement de dire c'est pas beau ce qui se passe au Nicaragua, on va lutter contre, il faut aussi lutter pour quelque chose. Donc voilà, nous avons pris un peu de temps pour dire qui nous étions et ce que nous voulions faire. Et donc nous avons éclos, entre guillemets, sous le parapluie donc, de la Maison du Tiers-Monde et de la Solidarité Internationale. Guy, je le signale au passage, ce que Marie-Claude ne l'a pas dit, mais qui va changer de nom, qui va s'appeler Maison des Territoires du Monde et de la Solidarité Internationale, je crois dire que c'est déjà fait.
Merci Florent de me corriger.
Donc sous ce parapluie, nous sommes constitués en comité, avec des objectifs, un, humanitaire, deux, de faire connaître, d'accueillir donc les personnes de passage, quatre, de récolter de l'argent et de soutenir des projets. Inutile de dire que de ce côté-là, donc les opportunités ne manquaient pas, surtout qu'il y a une gestion assez chaotique du Covid au Nicaragua qui a un peu aussi, pendant une période, nous a un peu détourné de nos objectifs premiers, mais enfin on y est vite revenu. Et voilà, nous sommes un comité, disons une petite centaine de personnes et d'adhérents, une dizaine de membres vraiment actifs, un bureau qui. Et puis donc des sympathisants qui donnent le coup de main à l'occasion, financièrement ou matériellement, notamment pour les événements que nous organisons. Et nous en avons organisé un gros événement.
Oui, très gros.
Là, dans 15, la semaine, dans 10 jours maintenant.
Dans 10 jours, oui. Alors justement, on peut en parler de cet événement.
Alors, je reviens toujours donc à avril 2018, qui est le fait fondateur pour notre affaire. Les quelques 300 jeunes, essentiellement des étudiants, qui ont été massacrés, ils ont des familles, ils ont notamment des mères. Les mères de ces, les mamans de ces jeunes se sont constituées un peu sur le modèle des folles de la place de mai.
De la place de mai, oui.
D'Argentine, se sont constituées en association en disant ce sont nos enfants, il faut tracer leur mémoire. Ce sont nos enfants, il faut que leur sacrifice serve à quelque chose. Et il faut que la justice passe par là et crée donc les conditions pour que, après, le peuple nicaraguayen puisse se retrouver et se construire un avenir ensemble. Donc, c'est l'association, c'est Association des Mères d'Avril, AMA, Association Madres de Abril, que nous soutenons depuis le début et que nous avons le plaisir. Avec qui nous avons le plaisir d'organiser ou d'accueillir une exposition itinérante qu'elles ont préparée, qui s'appelle le Musée de la mémoire, et qui a circulé un peu partout dans le monde, sous une forme virtuelle et sous une forme réelle, notamment en Espagne, à Bilbao, à Saragosse, à Barcelone. Et nous allons chercher l'exposition. Nous l'avons adaptée, donc, notamment traduite, etc., donc, en français, et nous allons la présenter à la mairie entre le 6 et le 16 juin de cette année.
D'accord, et d'ailleurs le titre, c'est ce que j'avais reçu en tout cas en information, c'est « Gardons la mémoire, dénonçons le présent pour préparer l'avenir » et donc deux points, la tragédie du Nicaragua. Donc c'est bien ce que vous disiez de la part des maires, c'est-à-dire quelque part, utilisons cette tragédie que nous avons vécue pour essayer de préparer un avenir meilleur, voilà. Aux humains et particulièrement à la jeunesse.
Exactement, c'est un musée qui se veut ne pas être un musée cimetière, mais être un musée tourné vers l'avenir, vers le devoir de mémoire et vers la construction. Donc parce que finalement, même si pleurer les morts et juger les criminels, c'est important, mais l'avenir, c'est la jeunesse et c'est ceux qui ont droit de vivre avec des libertés publiques, de construire une société égalitaire, comme d'ailleurs la Révolution, à ses débuts en 1979, avait fait rêver tout le monde.
Avait fait rêver tout le monde. D'accord. Donc, cette exposition, qui j'espère attirera beaucoup de nombreux publics, parce que c'est quand même aussi une notion d'espoir, oui.
Tout à fait. Alors, il y a l'exposition, mais au milieu de l'exposition, le point culminant va être donc le 7 juin, avec l'accueil de trois personnalités majeures, une représentante des maires d'avril, Donia Rousseff, un intellectuel donc très belge, très investi au centre tricontinental et qui analyse sur un plan à la fois militant et à la fois universitaire donc ce qui se passe en Amérique centrale et au Nicaragua en particulier.
Il s'appelle Bernard Duterme.
Et Ernesto Medina, qui est un grand leader de l'opposition, dont on peut penser qu'il a un avenir politique très important si jamais Ortega et sa clique dégagent. Donc Ernesto Medina, qui est actuellement, qui fait partie des 222 libérés et déchus de ses droits, qui est en exil en Allemagne, nous fait le grand bonheur de venir. Ils seront là pendant deux jours. Il y aura un point culminant donc qui sera à 18h30 à la mairie. Le mercredi 7 juin et donc ils illumineront dans cette exposition de leur histoire et des éclairages qu'ils nous donneront à cette occasion.
Au titre Violence, construction de la mémoire, justice. C'est tout un programme.
J'ai oublié de dire que l'université Montpellier 3 la personne de Lucille Medina, donc, est associée avec nous et avec la mairie pour la mise en place de ces beaux moments auxquels nous invitons tous les Montpelliérains.
Tout à fait. Ce même 7 juin, il y a le vernissage de l'exposition dans le hall de la mairie de Montpellier, en présence des représentants, des élus, en fait, de l'université, de la solidarité. Donc, gros événement. Ce que dit pas avec sa grande modestie mon invité, c'est que c'est lui qui organise cette fameuse table ronde dont il nous parle, qui nous fait le bonheur d'avoir invité des intervenants nicaraguayens, ce qui va sûrement nous passionner.
Mais sur cette table ronde en particulier, je délègue tous les pouvoirs immenses que vous avez décrits à l'université, qui est sans doute sous les aspects donc.
D'accord. Donc, Florent,
plus apte que voilà, moi à animer cette affaire.
Florent, du 7 au 18 juin, donc votre comité, le comité Nicaragua-Occitanie, accueille à l'hôtel de ville donc l'exposition et la conférence dont nous venons de parler. Voilà. Et je vous remercie infiniment et j'espère que ce sera suivi par de nombreuses personnes qui s'intéressent aux droits de l'homme et à la liberté en général et à la paix dans le monde. Oui. Voilà. Et une petite info juste à la fin. Donc le samedi 3 juin au domaine d'eau, de 14h à 18h, il y a une animation d'eau pour la vie qui s'appelle Le bonheur des bruits de l'eau dans le cadre des rendez-vous au jardin de 2023. Voilà, merci à tous et merci Yann à la technique. Et au revoir.
Et merci.